Voici les infos, Anaïs Feugard.
Les autorités mettent en garde contre un épisode important, durable et généralisé. Ces enchaînements d'épisodes pluvieux sur des sols saturés en eau. Conséquence, risque d'inondation sur une bonne partie du pays. Alerte orange au cru, vent ou pluie, inondation dans 19 départements. Elle sera étendue demain encore à une large partie ouest et sud avec l'arrivée dès ce soir de la tempête Niels par le littoral atlantique. Des vents à plus de 100 km par heure avec les départements en jaune. C'est donc les trois quarts de l'Hexagone qui sont concernés. En Dordogne, la Vézère continue de monter. Les habitants se préparent. Reportage ici Périgord, Marie-Astrid Guégan.
Quand la Vézère déborde, Philippe est l'un des premiers touchés. Il a déjà vécu 6 crues.
J'ai fait des réserves, j'ai tout prévu. Voilà.
3 packs d'eau.
Voilà, et ça, j'ai des sous.
Ouais, y a de quoi tenir
un petit peu, une semaine.
Parce qu'une fois l'eau montée, Philippe est cerné.
J'ai acheté une corde exprès d'escalade pour au cas où je devrais sortir de mon balcon si mes parents sont malades.
Éric et Jérémy ont surélevé tous les meubles et les machines de leur atelier sur des parpaings.
Pour éviter que tout baigne, tout se trimballe partout, et voilà quoi. Tout ce qui est meubles qui peuvent être meubles en bois, vraiment le principal, quoi, les machines, ce qui est table et tout, tout ce qui peut s'abîmer avec l'eau. Et on verra bien si à quelle hauteur ça monte. Si ça monte plus haut, il faudra qu'on surélève encore. Quoi, mais bon.
Derrière son comptoir, Émile n'a n'arrête pas d'actualiser Vigicru sur son ordinateur pour savoir quand le pic est prévu. Il a ouvert sa cave à vin l'été dernier.
On s'y attend en s'installant ici. Donc j'ai tous les copains du rugby qui m'ont dit on vient t'aider, d'autres amis, on vient t'aider, la famille, on vient t'aider. Donc ils sont aux affûts et puis voilà, s'il y a besoin, ils viennent.
Sous leur parapluie, Monique et Sylvie s'approchent de l'eau.
Là, on s'en va la voir pour voir si elle est où c'est qu'elle est. Parce qu'on pense aux autres, c'est tout. Moi, avant, j'étais rue Sainte-Catherine. Oh là là, tu t'es... Là, on dormait pas.
Les retraités sont prêts à donner un coup de main aux habitants qui en auront besoin.
C'est l'une des ressources fondamentales pour équiper les batteries des voitures électriques. Le lithium, dont un gisement dans l'Allier fait l'objet d'un projet de mine. L'État annonce ce matin y investir 50 millions d'euros. En septembre, le ministre de l'Industrie avait déjà affiché le soutien de l'État à ce projet de l'entreprise Imerys en lui accordant un crédit d'impôt de 200 millions d'euros. Le coût et la construction de cette mine de lithium dans l'Allier est estimé à près de 2 milliards. Un pétrole moins cher, c'est aussi moins d'argent pour les géants du secteur. Total Energy annonce ce matin un bénéfice net de plus de 13 milliards de dollars, en chute néanmoins de 17%. Condamnation confirmée en appel hier à Aix-en-Provence contre Stéphane Ravier. 1 an d'inéligibilité et 6 mois de prison avec sursis dans ce dossier de prise illégale d'intérêt. Le sénateur d'extrême droite soutien du candidat RN à la mairie de Marseille, jugé au même moment à Marseille justement pour favoritisme. Le procureur a requis entre autres 3 ans d'inéligibilité contre le sénateur, jugement la semaine prochaine. Le Premier ministre du Canada se dit bouleversé et annule son déplacement prévu aujourd'hui en Europe où il devait participer à la conférence de Munich sur la sécurité après la fusillade de cette nuit, des tirs dans un collège-lycée dans une région isolée de l'ouest du Canada, dans une petite ville de 2300 habitants. Il y a 9 morts et 27 blessés. Tandis qu'aux États-Unis, Donald Trump s'apprête à abroger l'un des textes fondateurs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre adopté sous la présidence Obama et dont découle de nombreuses réglementations actuelles pour protéger le climat ou la santé. Le climat et sa défense, pas vraiment non plus du goût du Kremlin. La justice russe doit se prononcer aujourd'hui sur le sort d'une activiste arrêtée en décembre. Elle est en détention provisoire accusée de terrorisme. Son arrestation illustre les dangers qui pèsent sur les militants écologistes du pays et une réalité moins connue, la répression de Vladimir Poutine à l'encontre des communautés autochtones, Damien Mestre.
Daria Yegereva porte la voix des Selkoups, un peuple qui vit en Sibérie, toute petite minorité, ils ne sont que 3000, et c'est justement pour défendre sa communauté menacée par le dérèglement climatique qu'elle milite depuis des années. Nous travaillons pour que les femmes autochtones soient incluses dans toutes les négociations sur le climat, dit-elle, des mots prononcés dans un entretien quelques jours à peine avant son arrestation. Elle était alors à la COP30 au Brésil.
Elle participait à différents comités international de l'ONU.
Natalia Morozova, juriste à la Fédération internationale pour les droits humains, voit dans cette arrestation un moyen pour la Russie de museler une activiste devenue trop populaire sur la scène internationale.
Oui, c'est une figure emblématique et donc elle est vraiment très très visible et toutes les personnes qui dépassent un certain niveau de popularité sont dangereuses pour la Fédération de Russie.
Natalia Morozova qui dit n'avoir aucun espoir sur la libération aujourd'hui de la militante. Il faudra pour cela davantage de pression de l'Europe, notamment, dit-elle. Daria Yegereva risque jusqu'à 20 ans de prison.
Et puis, on savait les oiseaux affectés par le changement climatique ou l'agriculture intensive. Une vaste étude ce matin montre aussi que les populations d'oiseaux sont sensibles aux bruits d'origine humaine, le trafic routier ou encore les chantiers. Les perturbations sonores ont été étudiées sur 160 espèces d'oiseaux sur 6 continents et le bruit affecte le cycle entier de la reproduction. Les oiseaux chantent pour trouver des partenaires, pour alerter contre les prédateurs ou encore pour demander de la nourriture à leurs parents. Or, dans un environnement bruyant, les informations passent forcément moins bien.
Merci Anaïs Feugat. Dans un instant, le magazine de la Grande Matinade.
Petit France Inter et le Château de Versailles présentent...
Savez-vous que Louis XV a créé le premier réseau d'espionnage du monde ?
L'or Grand Besançon.
Et que le roi Louis XVI se fait griffer de popotin par son chat aux toilettes ? Et que les femmes de Paris ont fait basculer l'histoire de la monarchie ?
Eh, Laure ?
Oui ?
Bah là, normalement, c'est à moi de parler.
Ok, ok.
Les Odyssées...
Le podcast d'aventure pour les 8-12 ans.
Ok.
De Louis XIV à Marie-Antoinette, je vous raconte follement, passionnément, toute l'histoire, ou presque, du Château de Versailles.
Les Odyssées du Château de Versailles.
5 nouveaux épisodes à retrouver sur Mon Petit France Inter et à télécharger sur l'appli Radio France.
Il est 9h06, soyez les bienvenus si vous rejoignez France Inter. Allez, je déclare ouvert le supplément magazine de la Grande Matinale avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure qui va nous parler fertilité, ça promet, avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, la gagnante de la Starac. Et puis vers 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Sort aujourd'hui une super production hollywoodienne adaptée d'un roman célèbre, Léo de Hurlevent, d'Emily Brontë. Alors je ne sais pas si vous avez lu comme moi les critiques dans la presse ce matin, est-ce un assassinat en règle de ce classique de la littérature? Deux spécialistes vont s'affronter tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Mon invitée est préhistorienne, paléontologue. Depuis 40 ans, elle pulvérise les idées reçues. Non, l'homme de Néandertal n'était pas un crétin baveux et brutal. Il n'était pas moins malin que Cro-Magnon. Non, la femme préhistorique n'était pas accroupie, cueillant et préparant les aliments. Elle guerroyait, elle peignait, elle chassait. La découverte de la préhistoire date du 19e siècle et les scientifiques de l'époque ont plaqué les schémas de leur société sur ce passé immensément lointain. Après les hommes, les femmes, notre paléontologue s'attaque maintenant aux animaux. Non, sur l'échelle du vivant, l'humain n'a pas toujours été ultra dominant. Vous l'aurez compris, cette chercheuse casse plus que des clichés, elle brise les hiérarchies et elle le fait, tenez-vous bien, avec 400 000 années de recul. Portrait numéro 86. Marilène Patoumatis, bonjour.
Bonjour.
Et quand je dis 400 000 années de recul, 400 000 années de recul, 400 000 ans, c'est l'âge de l'homme de Néandertal, c'est ça?
Oui, gros, tout à fait, à peu près.
Mais oui. Vous remontez quasiment jusqu'à l'apparition de l'être humain?
Oui, mais c'est plus difficile parce qu'on a beaucoup moins de témoignages sur leur comportement. Donc je me suis intéressée surtout à la période des Néandertaliens et de nos ancêtres directs, les premiers humains modernes.
Donc quand je dis moins 400 000, je suis pas loin.
Hein. Voilà. Non, tout à fait pour les Néandertaliens et 300 000 pour nous.
Voilà. Alors, nous étions si proches, les relations humain-animal de la préhistoire à nos jours, paraît donc demain aux éditions Alary. Votre précédent livre, L'homme préhistorique, est aussi une femme, était aussi sortie aux éditions Alary et il avait fait grand bruit. Je vous propose, Marilène Patoumatis, que nous rappelions quelques grands principes que vous avez théorisés et documentés au cours de votre carrière et des principes qui sont arrivés à rebours de tout ce que vous aviez appris à l'école et à l'université. Quand je parle de ce Néandertal, il a subi, vous l'avez dit, un délit de sale gueule pendant plus d'un siècle.
Oui, tout à fait, parce qu'il a été trouvé trop tôt. C'est-à-dire qu'on l'a découvert en 1856. Mmh. Alors évidemment, en plein 19e siècle, où on est encore avec le créationnisme, donc on ne pouvait pas avoir des ancêtres de l'homme, puisque c'était, voilà, l'homme était créé par Dieu. Et donc, quand on l'a découvert, on a dit, voilà, c'est un débile, c'est un rachitique, c'est, enfin, il a eu tous les torts, puisque c'était avant la théorie de Darwin 1859. Donc c'est vrai qu'il a démarré déjà un peu mal, sa carrière, si j'ose dire. Et en plus, au niveau de son anatomie, il était quand même différent de nous, bien qu'avec des ressemblances. Et tout ça a fait qu'il a traîné ça pendant un certain temps.
Mais alors pourquoi on s'est accordé, pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de consensus immédiat sur l'homme de Cro-Magnon qui arrive après, moins 30 000, et pourquoi est-ce qu'on s'est imaginé comme ça que l'homme de Néandertal devait attendre la grâce, et la grâce c'était l'arrivée de l'homme de Cro-Magnon. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette si bonne pub, l'homme de Cro-Magnon?
Vous savez, c'est un peu normal parce que, enfin normal, logique on va dire, parce qu'en fin de compte c'est nous. Et on a toujours cette vision, c'est-à-dire que, vous savez, il y a une théorie qui a été très très longtemps appliquée, développée par Gabriel de Mortillet, c'est le fait qu'on voit une évolution progressive et unilinéaire des sociétés et des humains, ce qui n'est pas vrai, c'est buissonnant. Mais on avait cette vision, c'est-à-dire que tout ce qui est vieux est moins bien que ce qui est plus moderne. Donc évidemment, les Néandertaliens, au niveau des stratigraphies, des fouilles, on les trouvait en dessous des sapiens. Donc de ce fait-là, en fin de compte, forcément, les sapiens étaient plus évolués, étaient plus modernes. Mmh. D'abord, on les appelle les hommes modernes.
Écoutez ce reportage d'un journal télé dans les années 2010, mais donc ce reportage qui arrive après vos travaux, Marilène Patoumatis.
On l'a longtemps considéré comme une brute épaisse, sans culture et incapable d'évoluer. Mais des scientifiques américains viennent de découvrir que Néandertal avait fabriqué des outils pour travailler la peau des animaux. Des lissoirs trouvés dans le Périgord, ils ont été obtenus à partir d'os de rennes. Nos lointains cousins avaient inventé l'abrasion.
Ils ont compris qu'avec abrasion, on peut changer la morphologie d'os. On peut profiter de les propriétés de os.
Voilà. Alors, je vous imagine devant la télévision, mais enfin, vous avez lu les revues scientifiques avant que nous ne découvrions cela à la télévision. Vous avez dû quand même bien rigoler à l'époque, non?
Oui, puis,
vous étiez un peu seul contre tous.
Non, mais non, il y avait d'autres collègues quand même. Je dois dire les choses comme elles sont. Il y a d'autres collègues qui ont beaucoup travaillé, justement, pour montrer la dextérité des Néandertaliens à tailler des outils. Et donc, ce qui me fait sourire, c'est que les Américains, vous savez, redécouvrent toujours un peu les choses qu'on a déjà découvertes. Parce que bon, voilà, ils lisent peut-être pas les travaux en français. Mais il y a eu beaucoup de travaux quand même. Rendez compte, 2010, c'est la période où on a découvert, grâce à la génétique, que nous avions des gènes en commun avec des gènes de Néandertaliens dans notre génome. Donc, évidemment, là, c'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que petit à petit, une fois qu'on a ouvert, si vous voulez, le champ des possibles, c'est-à-dire
la science vous donne raison.
Voilà, donne raison et donne raison à d'autres collègues aussi. J'étais pas la seule justement ont montré qu'il y avait bien sûr des différences avec nous, et c'est ça qui est intéressant. Les Néandertaliens ne sont pas des homo sapiens dans leur comportement. Et c'est ça qui est passionnant. Ce sont des humains, mais une autre humanité, comme j'avais écrit dans mon livre. C'est ça qui est vraiment important, c'est de voir ces différences et de travailler sur ces différences.
Alors cette autre humanité, c'est aussi cette femme préhistorique qui, elle aussi, a subi des décennies, voire des siècles d'idées reçues, parce que là, on a entendu l'abrasion de l'os découvert par l'homme de Néandertal, donc la fabrication des outils. Et là aussi, vous dites, mais enfin, qui peut me prouver que ça n'est pas une femme qui a fabriqué les outils et que ça n'est pas une femme qui s'en sert ?
Oui, moi, lorsque, à un moment donné, je me suis aperçue dans mes lectures qu'en fin de compte, on disait toujours les hommes préhistoriques, mais c'était vraiment au sens masculin. On me dit non, il y a un grand H, tout ça. C'est pas vrai. C'est que toutes les représentations, maintenant, ça a beaucoup changé depuis quelques années, là. Mais sinon, c'était toujours des hommes qui taillaient les outils, qui peignaient Lascaux, qui... Et pourquoi ? Et c'est là ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur du matériel. Moi, je suis donc une scientifique, et à partir de ce matériel, et d'en déduire des choses, des hypothèses, parce qu'on travaille beaucoup en hypothèses. Et là, je me dis, mais sur quoi ça s'appuie ? En fin de compte, si vous voulez, au niveau vraiment archéologique, pour ces périodes anciennes, ça s'appuie sur rien. Parce que quand on a un outil, on peut dire beaucoup de choses, sauf si c'est un homme ou une femme. Donc moi, j'ai pas dit, je refuse de dire, c'est les femmes qui le taillaient. Non, on ne sait pas. Et à ce moment-là, ça ouvre beaucoup le champ des possibles. Parce qu'on se dit, à ce moment, pourquoi y a tout, ce qui m'a intéressé
pourquoi
dans
on les
livre,
a représentés depuis deux siècles, accroupis dans la grotte, à s'occuper des petits et à préparer
parce
les aliments.
Pourquoi ça serait de prendre l'absence n'est pas une preuve, encore moins la preuve de l'absence. D'accord, mais ça marche dans les deux sens. Pourquoi on aurait le droit de dire ce sont les hommes qui ont taillé les outils et tout, et pas de dire, mais peut-être là, dans certaines sociétés, ce sont des femmes. Parce que la préhistoire, ça n'existe pas. Ce sont des sociétés préhistoriques. Comme vous le disiez, sur 400 000 ans, vous imaginez le nombre de sociétés dispersées dans le monde. Comment voulez-vous que partout, toutes ces sociétés soient identiques, et en plus identiques à nous ?
L'absence n'est pas une preuve. Je pense que c'est la phrase du jour, Marie-Hélène Patou-Matisse. Écoutez ça, on a retrouvé de la variété des années 60, de la variété tchèque des années 60.
Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáctým bylo let a do té lásky bez nadsázky.
Vous avez passé une grande partie de votre enfance en Dordogne et je me suis demandé si tous les enfants qui avaient passé une grande partie de leur enfance en Dordogne étaient devenus archéologues comme vous. Le sol en Dordogne est si riche que les enfants trouvaient des fossiles quand ils étaient petits dans les années 50 et dans les années 60.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est une région formidable. Je vais pas dire. Et le Lot, j'ajoute le Lot parce que j'ai une maison dans le Lot. Et le Lot, ce sont des régions fabuleuses. C'est vrai que, et en plus, je pense que ce qui a fait beaucoup, c'est aussi la découverte de Lascaux, évidemment, et sa renommée. Donc c'est une région importante, mais j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches qu'en fin de compte, partout c'était très riche. En Europe, par exemple, qui travaillait tout le temps sur les noms
d'Espagne. C'est un souvenir de petite fille. Voilà. C'est un souvenir de petite fille d'avoir trouvé dans le sol des fossiles, probablement des fossiles marins, et de vous être posé la question de pourquoi y a-t-il des fossiles marins alors que la mer n'est pas là ?
Exactement, c'est vraiment ça, et c'était pas en Dordogne, c'était quand j'étais chez ma grand-mère toute petite, on était en Seine-et-Marne. Maintenant c'est Roissy, bon, c'est pas voilà, mais à l'époque c'était des champs, et je trouvais, j'étais interrogée par le fait qu'il y avait des fossiles d'animaux marins alors que il y avait pas la mer, et ça a été mon premier questionnement, vraiment, en me disant qu'est-ce qui se passe, il y a eu autre chose, et donc petit à petit on m'a dit ce que c'était. Je suis restée longtemps dans l'expectative, et c'est vrai que ça, j'ai toujours gardé ça, c'est-à-dire le pourquoi, c'est-à-dire le questionnement par rapport à des choses qui sont qui n'existent pas ou qui sont pas, voilà, que ça va, c'est pas normal. Il faut qu'on m'explique pourquoi il y a ces animaux marins maintenant.
Vous avez été élevé par une mère et par une grand-mère d'origine tchèque, donc la Tchécoslovaquie, ex-Union soviétique, pays disparu, voilà. Et puis vous avez grandi sans père. Et ça aussi, c'est étonnant dans votre parcours de recherche des origines de l'humanité. Vous qui n'avez pas eu accès à vos origines, à vous, puisqu'il en manque une partie.
Exactement, c'est-à-dire que j'ai eu un beau-père, mais je n'ai jamais connu mon père biologique.
Ouais.
Et je ne m'étais pas aperçue de ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des amis, des collègues, en discutant, qui m'ont dit, mais tu sais, en fin de compte, pourquoi tu as choisi parce que tu cherches tes origines. Alors, je trouvais ça un petit peu café du commerce, mais peut-être que quelque part, on est... Et surtout, que je me suis orientée tout de suite vers l'Europe centrale et orientale. Donc, et je vous dis encore vraiment sincèrement, d'une façon inconsciente, c'est-à-dire que j'avais pas, mais j'étais attirée, j'avais envie d'aller par là-bas pour trouver, mais aussi des origines. Et peut-être que elles ont raison de penser que c'est ça qui m'a motivée. Quand je suis dans ces régions, et je pense là à mes collègues et amis ukrainiens, puisque j'ai travaillé pendant 15 ans en Crimée, voilà, dans quelles souffrances ils sont et tout, et ça me touche beaucoup, parce que quand on est archéologue, on part en fouille, on va dans ces pays-là, on a une collaboration, et on a des échanges, et on devient des amis. Mmh. Et là, en ce moment, quand on parle de l'Ukraine, moi je vois des visages. Voilà, j'ai des noms, je vois des visages. Et donc, c'est vrai que là aussi, ça fait partie de ce que j'aime, c'est ces échanges.
Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que donc vous recherchez vos origines, peut-être inconsciemment, à travers cette quête de l'homme de Néandertal, donc qui est un homme Donc, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas entendre, que vous ne pouvez pas sentir, que vous ne pouvez pas toucher, peut-être comme cet homme qui est votre père biologique. Mais il y a aussi que vous avez souffert du racisme quand vous étiez petite, en tout cas, votre famille d'immigrés... Elle aussi souffrait d'un délit de sale gueule et je me suis posé la question si ça faisait pas de vous, finalement, quelqu'un d'aussi influencé par votre époque, mais aussi par des moteurs intimes. Vous qui avez tant pointé les erreurs des historiens et des préhistoriens du 19e siècle en disant « Regardez tout ce qu'ils ont plaqué sur la préhistoire. » Vous aussi, vous plaquez des choses intimes ?
Bien sûr.
Bien sûr.
Tout à fait. Je pense que c'est inconsciemment. On ne vit pas hors du... on n'est pas parce qu'on est chercheur qu'on est hors sol. Et on a toutes ces questionnements intimes et peut-être dans l'inconscient et qui reviennent des fois en conscience. Et je pense que ça doit jouer. Il faut être sincère. Je crois que ça doit jouer, ça doit motiver. Et quand j'étais petite, parce que je suis restée donc 6 ans avec ma grand-mère, et on était avec beaucoup de Polonais, c'était la grande période. Et c'est vrai qu'on disait « sale Polak », alors que moi, j'étais Polak. Née à Paris. Mmh. J'étais née à Paris. Du côté maternel, c'était la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Mais bon, c'était comme ça. Et peut-être que ça a joué. Peut-être ça a joué. Puis la pauvreté. Parce que c'est vrai que c'est un milieu très, très pauvre. Du côté de ma grand-mère, c'était très dur. Très, très dur. Et donc, et là aussi, c'est un peu ce côté, un peu par rejeté, c'est un peu trop fort. Mmh. Mais en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile de se faire accepter. Parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Bon. Surtout que là, c'est quand même pas Mathusalem.
Tout cela suffirait à faire de la grotte de Combes d'Arc sur la commune de Vallon, Pont d'Arc en Ardèche, une merveille scientifique et artistique comparable à Lascaux. Principal intérêt, la diversité du bestiaire. 300 animaux. Des ours, beaucoup d'ours, une cinquantaine. Des bisons. Des rhinocéros laineux, des félins, dont une représentation unique de panthères. Des cerfs mégacéros ou grands cerfs d'Irlande aujourd'hui disparus, des hyènes, rares, et même une représentation de hibou, sans compter de multiples traces de mains, des signes et une étrange pierre surmontée d'un crâne d'ours.
Nous étions si proches, les relations humains-animales de la préhistoire à nos jours. C'est donc ce nouvel ouvrage que vous publiez, Marie-Hélène Padoumatis. Mais en réalité, c'est toute votre carrière qui se ramasse dans ce livre. Vous sauriez dire combien d'os d'animal vous avez manipulé dans votre vie ?
Non, mais ça va faire peur. Non, je pense que c'est des millions.
Des millions ?
Parce qu'il y a beaucoup, vous savez...
Des millions d'os ?
Des millions d'os d'animaux.
D'animaux.
C'est vrai, et même un peu d'humains d'ailleurs, parce que j'ai travaillé sur le cannibalisme. Mais c'est sur les c'est un autre sujet. Oui. Donc c'est vrai que c'est important parce que comme je disais tout à l'heure, on fait des fouilles archéologiques, on sort du matériel et notamment des outils, mais aussi des ossements d'animaux. Et c'est à partir de ça qu'on peut reconstituer, en tout cas essayer de reconstituer donc la vie de soit des Néandertaliens, soit des premiers humains. Et c'est vraiment important de pouvoir faire ces analyses parce que ça nous donne plein d'indications. C'est-à-dire que maintenant, vous savez, grâce en plus à l'ADN, à des nouvelles méthodes. Et il faut quand même beaucoup de matériel. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des quantités astronomiques.
Mais moi, je rêve de voir votre bureau qui est plein de dents de mammouth, par exemple. Quand est-ce qu'il a disparu, le mammouth ?
Oui, alors le mammouth, les derniers étaient des petits mammouths.
Oui.
Donc des mammouths nains. On en a jusqu'à à peu près 17 000. Certains disent jusqu'à 3 000, parce que les derniers qui étaient piégés sur des îles là-haut, tout au nord. Donc, vous voyez, c'est assez récent.
Donc l'humanité a inventé l'écriture qu'il y avait encore des mammouths.
Et puis surtout les premiers,
Alors,
les premiers pharaons.
Pourquoi ce livre arrive ? Ce livre arrive parce que vous dites nous sommes à une période de bascule. L'animal a déserté nos vies. Nous ne sommes plus en contact avec les animaux sauvages. La plupart d'entre eux, ce sont des espèces en voie d'extinction ou alors ils sont dans des zoos. Les animaux d'élevage, nous ne vivons plus à leur contact. Et les animaux de compagnie, de toute façon, nous avons gommé leur part animale, leur part sauvage. Et pour vous, c'est un basculement de l'humanité qui peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous imaginez une humanité qui peut vivre sans le règne animal, peut-être.
C'est-à-dire que je pense qu'il faut... C'est pas juste l'imagine, mais c'est de l'ordre du possible.
Oui, il faut l'entrevoir.
On peut l'entrevoir parce qu'on a tellement changé aussi nos rapports à ces animaux, simplement même sans le vouloir, même si on est très proche affectivement. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre... On est très proche affectivement et on est de plus en plus éloigné. Surtout tous les urbains. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, en fin de compte, nous tiraille un peu. On est un peu ce qu'ils ont
fait. Et comme vous avez ce recul de plusieurs centaines de milliers d'années, vous rappelez une chose fondamentale, c'est-à-dire vous rappelez que pendant très longtemps, les animaux étaient les prédateurs de l'homme et pas l'inverse. Vous rappelez qu'à l'invention du feu, on fait du feu pour éloigner les animaux des campements.
Oui, bien sûr, il y a eu tout ça. Puis il y a aussi le fait que l'animal, si vous voulez, était fondamental. S'il n'y avait pas eu cette relation, je parle pour l'Europe, il n'y aurait pas eu cette relation avec ces animaux, ça aurait été encore plus difficile pour les humains parce qu'ils tiraient tout de ces animaux. Bien sûr, on pense à la nourriture, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que les vêtements, les ossements, on en a parlé pour faire des outils. Il y avait vraiment cet animal. Et surtout, et là on l'a entendu avec la grotte Chauvet, surtout qu'à un moment donné aussi, l'animal est bon à penser. C'est-à-dire que ça a été une relation qui était une relation extrêmement forte aussi, qui s'est traduite sur les parois des grottes, mais aussi des petites sculptures, etc. Donc il y a c'est pluriel. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose pendant des milliers d'années. Donc il y a eu ce compagnonnage avec ces animaux, et à la fois la crainte, mais aussi l'attirance, à la fois. Et il y a eu plein de contes, plein de mythes qui sont autour de ces animaux. On s'est construit. Pendant très longtemps, on était avec ces animaux. Et c'est ça qui est intéressant de voir, que notre mal-être aujourd'hui vient aussi de ça, je suis persuadée. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on sait qu'il y a ce lien très fort, mais malheureusement, notre vie très urbaine, où on déforeste, où on enlève l'espace pour qu'il y ait des animaux, où on ne voit plus nos animaux domestiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va probablement modifier les... Je ne sais pas dans combien de temps.
400 000 ans d'archéologie dans ce livre, mais aussi 3000 ans d'histoire de la pensée, depuis les Grecs anciens, Pythagore par exemple, qui considère que manger de la viande, c'est être cannibale. Voltaire, au siècle des Lumières, qui était déjà végétarien, je l'ai découvert en vous lisant. Bref, aux éditions Alary, merci Marilène Patou-Mathis d'être venue sur France Inter ce matin.
Merci à vous. Merci.
Avec moi.
C'est drôle.
Quand il joue, il est comme toi. Impatient. Il a du cœur. Il aime la vie. Et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars. Surtout.
qu'est-ce que t'as?
C'était Jacques Higelin.
Allez, parez-vous les auditeurs, parez-vous.
Non, j'adore Jacques Higelin. Et quand on entend Jacques Higelin, on reste sur France Inter parce qu'on l'aime, Jacques
Bien
Higelin.
Sûr qu'on l'aime.
Voilà, il va bientôt y avoir un débat dans ce studio sur Jacques Higelin.
Non, allez, vous sur la chanson.
Vous êtes dans le magazine de la Grande Matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur France Inter à 9h45. Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Tous les jeunes de 29 ans vont bientôt recevoir un courrier pour les sensibiliser à la fertilité. Ma grand-mère, elle disait, elle a un polychinelle dans le tiroir. Maintenant, on va dire, elle a un courrier dans la boîte aux lettres.
D'accord. Daphné Burki, bonjour.
Et bonjour, ma nouvelle tête, je vous le donne en mille. C'est la gagnante de la Star Academy, Ambre, qui sera au micro de France Inter tout à l'heure. Faut que je vous la présente.
Ah bah oui, il est 9h30 sur France Inter et c'est l'heure du débat du jour.
Que ferais-tu, Heathcliff, si tu étais riche?
Sûrement ce que font tous les hommes riches. Embrasse-moi. Et nous serons tous les deux maudits.
Maudits, ils seront maudits. Hurlevent de la réalisatrice britannique Emerald Fennell. Alors, casting rutilant, hein, dont Margot Robbie, star de Barbie. La promesse du film, une relecture sexy, torride, de l'unique roman d'Emily Brontë, écrit en 1847, Les Hauts de Hurlevent. Déjà maintes fois adapté au cinéma et à la télévision. Alors, du kitsch, du grand spectacle et des critiques assassines dans beaucoup de vos journaux ce matin. Audace ou massacre, je pose la question pour ou contre cette adaptation d'un grand classique de la littérature.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre avec Florence Colombani. Bonjour Florence.
Bonjour.
On peut vous lire dans Le Point notamment, on vous entend souvent masquer la plume sur France Inter. Vous défendez la passion fiévreuse de Hurlevent et ça fait plaisir, une critique courageuse,
j'ose.
Ose. Lucille Comeau, face à vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice de Regards Culturels, on peut vous écouter sur France Culture. Vous avez étrié Hurlevent, mais alors...
Je ne suis pas la seule pour le coup, on est pas mal dans
mais quand
créneau.
Même, vous avez été sans pitié. Grand Gloubi-Boulga, écrit Libération, adaptation grotesque, écrit Le Figaro, purge académique, écrit Les Inrocs. Alors, est-ce qu'Emily Brontë va se retourner dans sa tombe? Florence Colombani, on commence par vous. Vous parlez d'un film tonique et passionnant.
Oui, moi, ce que j'ai trouvé vraiment rafraîchissant, justement, c'est que Emerald Fennell n'approche pas du tout cette adaptation comme une adaptation. Elle fait ce qu'on appelle de la fanfiction, c'est-à-dire qu'elle prend deux personnages qui l'ont fait rêver quand elle était adolescente, et elle le dit très clairement que pour elle, c'est un film qui rend compte de ce qu'elle a ressenti quand elle avait 14 ans et qu'elle a découvert le livre. Donc, elle prend les deux personnages, elle se débarrasse de quasiment tout le reste, d'une façon qui, pour quelqu'un qui adore le livre comme moi, est douloureuse. Parce qu'il y a des personnages qu'on adore, il y a toute la deuxième génération, tout ça, ça gicle.
Ouais.
Elle garde seulement les deux héros et deux autres personnages pour que quand même il y ait un peu de tension dramatique. Et elle se concentre sur une sorte de rêverie érotique qui est ce que ça a suscité chez elle. Et c'est vraiment de la fanfiction, c'est-à-dire elle prend les personnages d'Emily Brontë, mais elle les fait passer au filtre de son cerveau, de son imaginaire, de la musique de Charlie XCX, des acteurs qui sont les acteurs qui la font fantasmer aujourd'hui.
Et pour vous, ça marche?
Alors, pour moi, ça marche. Je comprends totalement qu'on refuse le film, mais je trouve que c'est assez malhonnête de ne pas reconnaître que c'est une vraie proposition. Il y a quelque chose de gonflé, il y a quelque chose d'énergique, il y a une envie de cinéma, il y a un appétit de romance, d'érotisme, de charnel, de cinéma avec un grand C, parce que c'est saturé de références au grand cinéma hollywoodien,
à l'âge d'or
de l'âge d'or, et pas seulement, aussi des années 90, 2000. Enfin voilà, c'est un film qui tente, qui ose, et donc c'est un film qui en effet déborde de mauvais goût, mais moi c'est ce mauvais goût que j'ai bien aimé. Et quelque part, on dit que c'est un film hollywoodien, mais parce que
on va y revenir sur le,
mais en fait c'est plutôt un film britannique. trouve, avec ce côté mauvais goût.
Lucille Comeau. Bon.
Enfin, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. C'est difficile, en fait, d'oublier les deux stars hollywoodiennes, tant on a quand même, il faut le dire, vécu un battage médiatique autour du film qui a largement précédé sa sortie. Il faut rappeler un peu dans quelle économie il sort ce film. Il sort après avoir été annoncé comme un des films les plus attendus de l'année. On ne sait pas vraiment pourquoi, on n'avait pas encore vu en tant que journaliste, par exemple, le film. Il y a eu des photos partout. Si vous avez un réseau social quelconque, vous n'avez pas échappé aux photos de Jacob Elordi et de Margot Robbie dans des robes incroyables, des corsets de toutes les couleurs, qui en fait déjà anticipaient l'esthétique du film, qui est une esthétique en effet, disons, néo-pop, néo-gothique, néo-pop. Et le film arrive. Et ce qui est très impressionnant, je trouve, et là pour le coup, je pense qu'on a affaire à un phénomène qui marque l'histoire du cinéma, c'est que le film est exactement le prolongement de cette campagne médiatique et pas plus.
C'est-à-dire qu'il fonctionne pour vous, exactement. C'est ce que vous avez dit, Lucille Comeau, c'est un enchaînement de clichés Instagram.
Tout à fait, ou Instagram ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de regarder des plans un à un et non pas des scènes. Moi, je vois rien qui se construit en termes de narration. Bon, on pourra y revenir. Hein. C'est vraiment là pour le coup, il y a très peu d'histoire en fait. On voit une série de plans dont certains sont en effet fait à teneur érotique, moi je trouve l'érotisme aussi extrêmement sage, mais bon, on y reviendra peut-être, qui sont en fait comme des slides en fait, c'est comme si on avançait, alors on n'a même pas la main, c'est-à-dire qu'on peut même pas zapper, c'est pas notre doigt qui avance, hein, c'est un montage qu'on nous impose, mais dont l'économie de l'attention qu'il produit est exactement le même que l'économie de l'attention des réseaux sociaux, c'est-à-dire un battage.
Et alors,
une sorte
pour
de battage
vous,
complètement plat.
Par rapport à ce roman, à cet immense roman, Léo de Hurlevent.
Oui, en plus, moi, j'ai pas de chance, entre guillemets, je l'ai relu il n'y a pas longtemps.
Bah, c'est un ratage complet.
Oui, après, en fait, là où je suis d'accord avec Florence, c'est qu'il n'y a pas de fidélité due au classique.
D'accord.
Donc, le roman, il est de toute façon, à mon avis, inadaptable.
Vous ne hurlez pas à la trahison.
Mais pas du tout. Non, mais pas du tout.
Et aucune adaptation.
Vous hurlez au gros ratage.
Je hurle éventuellement à la trahison du cinéma en tant qu'un objet qu'on réceptionne comme un spectateur intelligent, dont on peut éventuellement lire les signes. Là, pour moi, Hurlevent, c'est un réseau de signes. Alors, vous en avez cité plein, hein. Ça va vers le cinéma hollywoodien classique, ça va vers la pop culture, ça va vers le gothique, ça va vers la dark romance, qui est quand même une espèce de truc qu'on entend beaucoup parler. Mais tout
qu'est-ce
ça,
que
tout
c'est
ce
que
réseau
la dark
de signes
romance,
ne fait pas sens.
Parce qu'on voit ce mot partout. Florence Colombani, qu'est-ce que c'est que la dark romance? Parce que pour vous, l'érotisme fonctionne dans Hurlevent. Pour Lucille Comeau, elle va nous expliquer dans deux minutes. Pas du tout, ça l'a fait glousser pendant tout le film. Florence.
La dark romance, c'est ce courant littéraire, c'est un bien gros mot, mais en tout cas d'écriture, qui prolifère depuis Fifty Shades of Grey en fait, et qui a gagné même même gagné la littérature adolescente, où donc l'érotisme se teinte de sadomasochisme, et ce qui est sulfureux aujourd'hui, c'est un peu ce parfum de lanière qu'on serre, il y a un corset là dans le film qu'on serre jusqu'au sang, de pratiques où il y a l'idée d'une domination, c'est jouer avec le danger. Avec le sadomasochisme, mais dans une forme quand même assez légère. Il faut pas non plus, c'est pas du tout un film sur la domination. C'est léger. C'est léger, c'est un parfum de quelque chose. Et comme je le disais, c'est quelque chose de l'imagination d'une fille de 14 ans. Et c'est là que je trouve que Emerald Fennell, elle touche juste, c'est-à-dire on est dans un imaginaire de quelqu'un qui découvre ce que c'est que l'érotisme et qui rêve autour de ça et dans un univers romanesque qui est celui du 19e siècle. Avec des robes à crinoline, avec des frontières sociales très délimitées entre serviteurs et maîtres, donc une sorte de réalité sociologique très facile à lire, et donc des rapports de pouvoir qui peuvent se traduire sur le plan érotique de façon évidente.
Lucille Comeau, pourquoi ça vous a fait mourir de rire
Mais parce qu'en fait,
séquence après séquence, cet érotisme.
Il y a deux manières de montrer le sexe dans le film. Il y a une manière métaphorique et symbolique qui est hilarante, c'est-à-dire que enchaîner un plan sur le visage rougissant de Margot Robbie, qui par ailleurs est une actrice qui a 35 ans et qui à ce moment-là du film joue une jeune femme, il y a un problème.
Enfin, de 18 ans.
Oui, hein, bah voilà. Oui. Là, il y a un problème. Elle n'est pas en train de découvrir la sexualité, Margot Robbie, ne nous racontez pas ça. Bref, on enchaîne un plan sur son visage rougissant, sur un escargot en gros plan qui bave le long d'une vitre.
Oui, il y a des fluides tout le temps.
Et puis, le pain qu'on pétrit. Non, enfin. Alors,
mais
là,
si,
ça,
justement.
Non, mais ça, c'est le symbole. À la limite, moi, ça me fait rire. Moi, je préfère rire que d'être complètement déprimée.
Ouais.
Non, par contre, moi, ce qui me déprime et ce qui, je trouve, est très asséchant, ce sont les scènes de sexe en elles-mêmes. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils y vont, là, les petits cocos, là, même s'ils n'ont pas trop le droit. Et ce sont vraiment des scènes de sexe d'une banalité, mais effarante. C'est vraiment des scènes de sexe telles qu'on se représente une scène de sexe au 19e,
mais exactement,
dans une diligence, avec du vent autour, on ne sait pas où est le chauffeur, ils sont en plein milieu. Bon, bref, ça, c'est vraiment ridicule. Il y a un côté ridicule. Et moi, je ne pense pas que ce soit le cerveau un peu embrumé, excité d'Emerald Fennell qui parle. Je pense que c'est Emerald Fennell et ses directeurs artistiques, parce que c'est vraiment un film de direction artistique, qui imaginent ce que c'est qu'une jeune fille de 14 ans aujourd'hui. Et là, à mon avis, il se plante.
Là,
non,
là,
ça, je pense pas que ce soit ça.
Laurence Colombani, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez du kitsch et du mauvais goût,
là,
toutes les deux.
Oui, je pense qu'au contraire, je pense que c'est un film très personnel et que c'est vraiment pas... Et je trouve que reprocher à un film d'avoir une campagne publicitaire qui le précède, c'est un
c'est
faux
pas ça
procès.
La question. Enfin... Marty Suprême sort la semaine prochaine. C'est un film merveilleux qui a eu le même type de campagne publicitaire et le film est magnifique. Là, le problème, c'est que le film, c'est la même chose
que la campagne publicitaire. C'est qu'en fait, c'est un énorme paquet publicitaire.
Exactement.
Et il n'y a pas de cinéma en plus.
Non, je ne pense pas.
Non.
Mais ce que vous disiez au départ, c'était qu'il y a cet enchaînement de clichés sur Instagram et ensuite on les retrouve dans le film. Pour moi, ce n'est pas un reproche. Enfin, je pense qu'en effet, il y a un univers que le film construit, qui est une sorte d'univers mental qui, je pense, est très sincère. Et moi, je sens cette sincérité dans le film. Et là où je la vois aussi, c'est que Emerald Fennell, elle utilise des pans entiers du dialogue du livre. C'est-à-dire qu'on entend Emily Brontë dans ce film, contrairement à ce que tout le monde a l'air de dire. Oui. C'est des dialogues textos, moi aussi.
Cru que le roman était abondamment oublié.
Moi aussi, je connais bien ce roman. Il y a vraiment des répliques entières, enfin des passages entiers qui sont tirés du livre. Et il y a même une réinvention très intelligente du personnage de Nelly, qui est la servante, qui joue un rôle très important dans le livre, et là qui devient une sorte de dame de compagnie de Catherine, l'héroïne, et qui est sadisée par elle. Et c'est fait de façon assez... Enfin, pareil, c'est une sorte de rêverie et de réinvention, mais c'est une bonne idée, je trouve. Et je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'idée ou qu'il n'y ait pas de sincérité. On peut lui reprocher d'avoir manqué sa cible, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir pensé les choses en fonction du public.
Lucille Comeau, c'est un film vous qui avez relu les Hauts de Hurlevent très récemment, vous dites plutôt l'inverse. Vous vous dites on perd la puissance absolue de ce livre.
Encore une fois, en fait, c'est une puissance qui est presque de l'ordre de, à la fois un peu de la tragédie antique. Il y a vraiment quelque chose des Atrides dans la reproduction, de la malédiction familiale.
Dans les Hauts de Hurlevent.
Là, c'est pas le cas dans le film. Mais dans le roman, il y a plusieurs générations de Heathcliff et de Catherine. D'ailleurs, ils s'appellent de la même manière. C'est hyper troublant. Et c'est à la fois un espace assez abstrait, assez théâtral, et c'est aussi extrêmement violent physiquement. Il y a beaucoup de violence sur les enfants, ce qui est très difficile à montrer au cinéma. Donc, encore une fois, la question d'avoir modifié le roman, il n'y a pas de problème. Mais c'est très intéressant que vous parliez de Nelly, donc, qui est la servante, qui dans le roman est la narratrice. Parce que dans le roman, il y a un récit cadre, et c'est la narratrice, c'est la servante, qui est aussi une dame de compagnie d'ailleurs. Et là, en effet, elle se prend, mais la pauvre, elle n'a rien demandé, toute la culpabilité féminine par ailleurs de la manipulation du couple Heathcliff et Cathy. Donc le seul moteur narratif, parce que sinon c'est extrêmement plat, c'est cette jalousie supposée de Nelly, qui aurait bien aimé quand même elle-même faire des galipettes avec Heathcliff dans une calèche en plastique, et qui du coup devient extrêmement méchante et ça n'a
c'est surtout
aucun
un ressentiment
sens d'un
social,
point de vue narratif.
Enfin, ouais, c'est comme oui, ça que j'ai interprété.
On n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais le truc de la classe et de la classe sociale, c'est bien
alors,
gratiné.
Ça sera votre conclusion.
Gratiné.
Dites-nous, Lucille Comeau.
C'est-à-dire que c'est quand même un roman sur la classe sociale. Et le film commence d'ailleurs par une scène de liesse populaire, de divertissement, de défoulement carnavalesque. Et on se dit, il se joue quelque chose d'une question sexuelle mélangée avec la question de la lutte des classes à ce moment-là en Angleterre. Et ça, après, ça disparaît complètement. En effet, Nelly devient une espèce de méchante. Les serviteurs sont en fait ceux qui ont la scène de sexe la plus intéressante parce que comme eux, c'est des serviteurs, ils peuvent y aller. Il y a quand même un problème de représentation.
Justement, j'adore cette scène. Cette scène qui est une invention et une scène très intelligente où Catherine, l'héroïne, observe des serviteurs qui ont un rapport sadomasochiste et là, Heathcliff intervient et lui couvre les yeux de sa main. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'assez puissant qui a un message du film qui est malgré tout cet étalage que le film fait, le film sait encore que la suggestion est ce qu'il y a de plus fort. Et finalement, c'est le moment le plus érotique du film et c'est une réussite.
Et bien écoutez, la semaine dernière, on a eu un débat sur le match du Kremlin, ça nous a donné follement envie d'aller le voir. Avec Hurlevent, c'est pareil, le film sort au cinéma avec Jacob Elordi dans le rôle de Heathcliff, folle passion avec Margot Robbie qui a 35 ans mais qui joue un personnage de 18 ans. Lucille Comeau, merci, rendez-vous sur France Culture. Culture. Florence Colombani, merci. Rendez-vous au masque ou dans le point. Arlo Parks sur France Inter. À suivre, Charline Vanhoenacker et aussi Daphné Burki. Merci à toutes les deux.
Merci.
There's a butterfly effect, 'cause I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through white. My friends are all inside. The heat and the dark, my head is so
Parks, le choix musical de la grande matinale, un nouvel album au printemps et c'était donc un avant-goût avec Tootsie Died. Alors, il est 9h47, vous êtes toujours dans le magazine de la grande matinale. Charline Vanhoenacker, le gouvernement a annoncé qu'il enverrait à tous les citoyens âgés de 29 ans une lettre pour les sensibiliser à la fertilité.
Oui, la prochaine fois qu'un enfant vous demande « Sonia, comment on fait les bébés ?» Bah vous lui direz « on attend un courrier du ministère, avec une petite graine dedans. » Bon, les filles, on est toutes d'accord que recevoir un courrier, ça éveille en nous un désir d'enfant. Si,
Nico.
Si, surtout s'ils ont pensé à mettre un petit peu d'eau de Cologne sur l'enveloppe. Vous vous rendez compte que pendant des siècles, des femmes ont fait des enfants sans recevoir de courrier du gouvernement? Mais comment ont-elles fait pour avoir l'idée de faire des bébés? C'était de véritables pionnières. Maintenant, grâce à l'État, les jeunes qui fêtent leurs 29 ans vont pouvoir éviter ce type de situation gênante. Merde, chérie, j'ai oublié. Quoi, de ramener du pain, régler les factures? Non, j'ai oublié de faire un gosse. Ça va être chouette la vie des jeunes couples en 2026. Le facteur vient de déposer un courrier dans la boîte, avec un petit logo du ministère de la Santé. Oui, bah ouvre-le tout seul parce que j'ai la migraine. La ministre de la Santé qui s'appelle... Bravo, bravo, bravo. Stéphanie Rist, voilà. Alors les futurs ados, ils seront là. Et toi, pourquoi tes parents, ils ont voulu t'avoir? Parce qu'ils étaient amoureux, et toi? Parce que Stéphanie Rist leur a demandé. Je peux vous dire que moi, quand je vais recevoir cette lettre...
Mais ça s'adresse qu'aux femmes de 29 ans.
Et?
Non, rien. Il paraît que le déni, ça permet aussi d'avancer en même temps, Charline.
Oui, Daphné, de toute façon, j'aimerais pas du tout recevoir cette lettre. J'ai l'image de Macron qui sort de ma boîte aux lettres pour me dire « Attention, c'est votre période d'ovulation !»
Cette image
Oui, si, là, attends, la prochaine étape, Daphné, attends, la prochaine étape, c'est Macron qui campe au pied du lit en jouant du saxo avec ses lunettes de soleil. regarde, ça l'excite. Allez, calme-toi, parce qu'après, il y a une interview. Allez, Macron. Ah, mais Macron, c'est le maître des horloges biologiques. Enfin, voilà, d'habitude, on dit aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps à la télé, à la radio, dans les pubs. C'est vrai qu'il manquait plus que le courrier. Hein. Le gouvernement a bien précisé qu'il ne s'agit pas d'inciter les Français à faire des enfants à tout prix, mais juste à éviter le « si j'avais su ». Après, c'est parfois quand on se retrouve à 4h du matin à préparer le troisième biberon de la nuit qu'on peut aussi tomber dans le « si j'avais su ».
Oui. Oui. Hein.
Autre exemple, bah, si j'avais su, c'est les ovocytes que j'aurais congelés, pas les bébés. Ah oui, mais si Véronique Courgeot avait reçu la lettre à temps aussi. Oh. Ah ben oui, si j'avais su, c'est aussi ce que pensent peut-être ceux qui ont voté Macron. Alors, ce qui freine le plus la parentalité, c'est plutôt les considérations économiques. Et là, c'est nous qui avons bien envie d'envoyer un courrier au gouvernement pour qu'ils mettent des moyens dans les maternités ou créer des places en crèche. Voilà. Et puis, entre la nourriture, les couches, les vêtements, t'en as au moins pour 68 euros par an par enfant. Hein. Ah, attendez, c'est pas les bons chiffres. Ah, je comprends pas. C'est pourtant Sarah Knafo qui me les a donnés. Je comprends pas. Alors, j'oublie, pour terminer, un détail important. Ce courrier sera envoyé à la fin de l'été. Oh là là, dites donc, heureusement que c'est pas maintenant. Hein. Il arriverait dans la boîte aux lettres entre un tract pour Emmanuel Grégoire et la tête de Sofia Chikirou. Ah, c'est foutu pour la libido. Hein.
Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Allez, Daphné Burki et sa nouvelle terre.
Il est 9h50 et nous sommes donc en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête ce matin s'appelle Ambre, une Hello. Jeune artiste. Hello. Et accessoirement, la gagnante de la Star Academy. La Star Academy, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est un endroit étrange. On y entre avec un jogging et un rêve. Et on en ressort avec des milliers d'abonnés et un nouveau début de destin. On vous filme quand vous chantez, quand vous pleurez, mais quand vous doutez aussi. À 18 ans, on vous demande d'être à la fois une élève, une professionnelle, une confidente et déjà un peu une marque. Et au milieu de tout ça, bah, il faut continuer à être soi et partir à sa propre rencontre. Exercice de dingue. Cette année, c'est elle qui a traversé ses 16 semaines avec brio. Elle s'appelle donc Ambre. Et ce matin, bah, moi j'ai envie de savoir un peu comment on grandit en accéléré quand tout le monde vous regarde. Bonjour Ambre, bienvenue
Bonjour.
Sur France Inter.
Merci beaucoup.
Comment ça va ce matin?
Ça va bien, merci.
On est à J+4 de la sortie du château.
J+4, oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça...
Je reprécise parce que vous êtes dans un marathon complètement délirant. Tout le monde vous demande, d'ailleurs, j'ai regardé, la première chose que vous avez faite en sortant, comme si vous sortiez de prison. Mais sauf que moi, j'imagine que vous avez déjà enlevé les grosses lunettes de soleil que vous portiez.
Oui, déjà. Ouais.
Parce qu'on explique. C'est-à-dire que le château est éclairé avec 40 000 tonnes de lumière jour et nuit. Vous n'aviez pas le choix.
C'est pour les lunettes, j'avais pas le choix. C'est vrai que c'était super fort. C'est difficile de l'expliquer. Mais en fait, les lumières, c'était vraiment... Non, mais je vous promets, c'était terrible. C'est-à-dire, on nous réveillait avec des lumières, mais tellement fortes. Bon, bref, après, je vais me faire des ennemis, mais...
Lunettes de soleil en permanence. Mais ouais. J'ai su que vous teniez un journal. Je ne sais pas depuis combien de temps vous tenez votre journal. C'est juste...
J'adore écrire. Moi, j'adore écrire. Et avant le château, déjà, j'avais pris cette habitude de, tous les matins, en prenant mon café, quand j'avais encore un peu le temps, de justement écrire... Comment j'aimerais que ma journée se passe, prendre du recul sur ce qui s'est passé hier, plein de trucs comme ça. Bref, ça me faisait du bien et du coup j'ai continué à faire ça au château quand je pouvais.
Et quand vous êtes sortie, est-ce que vous avez écrit dans votre journal? Qu'est-ce que vous avez écrit?
J'ai pas eu le temps, ah, j'ai ça. Pas du tout le temps, ouais.
Mais ce serait quoi le premier mot qu'on écrit quand on sort d'une aventure comme ça?
Je pense que ce serait « Oh waouh
!» Samedi, vous avez décroché le pompon de la Starac, vous avez chanté donc vos moments préférés en direct à la télévision, et puis celui-ci aussi.
Prends ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle. Au moins, elle est fidèle. C'est pas comme un que je connais, un qui me laisse crever toute seule. Mais je ne veux même pas en parler, à qui se fout bien.
Quand vous réécoutez ce moment-là, qu'est-ce que vous entendez? La chanteuse ou une jeune femme qui tient un peu le choc, hein, on peut se le dire?
Oh, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je pense que c'est... Bah, d'abord, j'entends beaucoup de colère, mais je pense que cette colère, c'est surtout par rapport à l'interprétation que j'ai voulu avoir sur ma gueule. J'ai vraiment pensé à quelque chose de très précis, peut-être... à des remarques qu'on peut nous faire ou à des il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois plus un peu comme ça ou un peu plus comme ci ou moins ça. Et en fait, c'est des choses qui, surtout quand on est au château, qui on pense qu'à ça après. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup fait douter, qui m'ont fatigué l'esprit. Enfin, je savais plus trop où me situer. Et donc, quand j'ai su que j'allais chanter ma gueule, je me suis dit, bon bah, voilà, voilà comment tu vas l'interpréter, tu vas penser à ça.
On va oublier tout ce qu'on essaye de me formater.
Exactement.
Et on va tracer. Et c'est assez impressionnant ça chez vous, parce que avant de débarquer sur les écrans, vous aviez donc 18 ans, vous avez juste le bac en poche, vous avez vécu un peu partout, et vous vouliez absolument décrocher la Star Academy. Avant, il y a eu des castings, il y a eu des refus, il y a eu des tentatives, même pour l'autre télécrochet, The Voice, et cette idée que si ça ne marchait pas ici, vous partiriez chanter à New York dans la rue.
Oui. En fait, je m'étais dit, c'est soit ça marche, soit je... En fait, pour moi, la Starac, en fait, je voulais tellement réussir qu'une fois que j'ai passé mon bac, je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose après, il faut que je me lance dans la musique. Et donc, quand la Starac s'est présentée à moi, quand c'est arrivé dans ma vie, je me suis dit, il faut absolument que je sois prise. Il faut que ça se passe bien. Finalement, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, si ça se passe pas bien, je vais me débrouiller, je partirai... À New York, j'irai toquer aux portes, j'irai chanter dans la rue ou je trouverai un autre moyen de...
D'y arriver.
Ouais.
Cette première chanson que vous avez chantée pour vous présenter au public dans l'aventure, je vous le donne en mille, c'est « Entrer dans la lumière » de Patricia Cass.
Entrer dans la lumière comme un insecte fou.
Patricia Cass, elle a chanté cette chanson quand elle avait 26 ans. Elle avait déjà une carrière internationale de dingue. Vous, on vous propose de chanter cette chanson à peine 18 ans. Cette folie qui a autour, ça réchauffe? Cette lumière, elle réchauffe ou elle éblouit quand même un petit peu
dans tout ce qui se passe?
Ouais.
Franchement, ça fait beaucoup de bien parce que c'est des choses qu'on a attendues en soi. Et moi, j'ai toujours attendu ce moment de pouvoir... chanter devant plein de gens, de pouvoir montrer ce que je peux faire avec ma voix, mon piano, etc. Et donc, ouais, en vrai, c'est des choses dont on a toujours rêvé. Donc, quand ça arrive, on est heureux.
C'est une émission, en plus, où on vous demande, en quelques semaines, on vous demande de tout déposer. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez déposé, comme on dit. On vous demande de vous confier. Vous avez dû parler de votre père, absent, en chantant, par exemple, Calogero.
Aussi vrai que je n'ai pas dit.
Samedi, vous avez gagné un public, des centaines de milliers de followers, paraît-il.
Oui, pas mal.
Ça a explosé sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Vous avez donc rallumé finalement ce téléphone portable qu'on vous demande à l'entrée du château. Vous retrouvez un monde réel. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise?
Mais moi, je crois que c'est de voir tout l'amour des gens sur les réseaux sociaux, parce que même si on gagne, même si on va loin dans l'aventure, on est tellement dans notre bulle. C'est difficile de s'imaginer ce qui se passe dehors, malgré tout. Et on voit l'amour seulement quand on fait des sorties et quand on rencontre le public, ou parfois sur les primes. Mais c'est difficile à quand même réaliser. Et donc, ouais, je crois que c'est ça. C'est une fois que j'ai rallumé mon téléphone et que j'ai vu tout l'amour des gens sur les réseaux sociaux, le soutien.
Vous êtes accompagnée dans ces moments-là, quand on rallume le téléphone, parce qu'on sait ce que c'est. Hein. On sait en ce moment, d'ailleurs, il y a des réflexions, des pistes de réflexion, même là-dessus, sur le cyberharcèlement que subissent tous ceux qui passent par la télévision, par les écrans. Vous êtes accompagnés quand vous rallumez le téléphone?
Oui, on est accompagnés. D'abord, on nous explique un peu tout ce qui a pu se passer. Et ensuite, on nous rend le téléphone. Mais oui, on est accompagnés. C'est très bien organisé. C'est pas du tout... On nous lâche pas comme ça dans le vide avec notre téléphone.
Il y a deux immenses stars dans votre vie. Mm-hmm. C'est Lady Gaga et votre grand-mère.
Oui.
Je sais pas, les deux arrivent dans la pièce, laquelle vous aimez le plus?
Oh, c'est difficile. Non, je rigole.
Quand vous reprenez Gaga, et c'est ce qui a fait un peu votre touche à vous personnelle, ça donne ça. Vous avez gagné un album, 100 000 euros. J'imagine que vous avez hâte de rentrer en studio. Il paraît que vous êtes déjà en train de faire évoluer votre nom. Il ne faut plus vous appeler Ambre, il faut vous appeler...
Amber Jada.
Amber Jada, c'est ça?
Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, en fait, Amber Jada, ça a toujours été mon nom sur les réseaux. Ça, j'ai pas changé du jour au lendemain après la Starac. Et en fait, Amber Jada, j'ai pu en parler un peu hier, mais c'est mon nom d'artiste. Et en fait, étant donné que j'ai toujours... bien avant la Starac, j'ai toujours eu ce rêve de l'international. Je m'étais dit, ok, comment me faire un nom un peu d'artiste qui sonne un peu plus international. Et donc, au lieu de Ambre, j'ai mis Amber et puis Jada, parce que ça sonnait très bien. Et puis oui, en sortant, donc, au château, j'ai gardé Ambre parce que c'est quand même mon prénom et que j'allais pas arriver comme ça. Et en sortant, je me suis dit, bon, bah, je vais garder ça parce que c'est quand même l'artiste que j'ai envie de devenir.
Alors, je vous appelle Amber ce matin. J'ai pas oublié votre grand-mère, évidemment, à qui vous aviez chanté une reprise de Nuit Magique de Catherine Lara. Mm-hmm. Okay. Est-ce que vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter? Pour quelqu'un ou quelque chose?
Bah non, c'est tout bête, je bégaye beaucoup. J'aimerais encore une fois remercier le public parce que c'est quand même grâce à lui, c'est grâce à lui que je suis la gagnante de la Starac. Et ouais, merci pour, je me répète, mais je me répéterai encore, merci pour le soutien, pour tout l'amour, pour tout en fait.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.